13h11 exactement, vous êtes à l'émission Nangeur. Je vous le répète, pour participer à l'émission 418-971-1021. D'ailleurs, vous avez participé en très grand nombre à notre concours Fromagerie Victoria. Merci d'être à l'écoute de l'émission Nangeur sur Boulevard 102.1. On adore votre présence. BLVD.fm, c'est la web radio. Vous pouvez également retrouver les meilleurs moments. Le prochain invité, on va le mettre dans nos meilleurs moments parce que c'est toute une histoire sportive. L'application Boulevard sur Google Play Store et Apple Store. Également, on est disponible sur twitch.tv/BLVD/FM. Pascal, tu me dis toujours, Jeff, j'aime ça quand tu me racontes le sport. J'aime ça quand tu me racontes des histoires. Et là, l'histoire qu'on va te raconter, moi et Stéphane Turcot de TVA Sport, c'est simple. Tu venais d'être au monde quand c'est arrivé.
Ça veut dire 94?
Ah, c'est arrivé en 95, imagine-toi donc. Stéphane Turcot qui est avec nous. Stéphane, merci d'être là.
Bien, merci de m'avoir invité.
Ça fait plaisir. Steph, avant que je fasse jouer le montage justement d'une minute 15 qui va nous mettre dans le bain, c'est un moment historique qu'on va parler de sport au Québec.
Ça avait marqué l'imaginaire, cette histoire-là. Ça a commencé avec le 2, la sortie de Patrick Roy contre Mario Tremblay et Ronald Coré. Et 4 jours plus tard, la transaction. Ça avait ébranlé les colonnes du temple.
Exactement. On se remet dans le bain avec le réalisateur de l'époque de la soirée du hockey à Radio-Canada, Jacques Primeau, qui va nous expliquer justement comment il avait travaillé pour qu'on voit la fameuse image où Patrick Roy dit à Ronald Coré, c'était mon dernier match ici.
Il va donner un point jusqu'en zone neutre, pris par Lariana, puis il l'abandonne pour Fiodorov. Le tir de loin, Boulet bloqué par Roy. Et là, c'est un geste de Roy. Tout à fait impardonnable.
Là, tu voyais réellement que Patrick, il en avait plein son casque, puis il était peut-être humilié d'une certaine façon. C'est genre, pourquoi tu me laisses ici, là? Sors-moi donc d'ici, là. C'est assez, là. 8e but, 9e but. Fait que là, tu voyais qu'il y avait un build-up qui se faisait. Quand finalement, il est sorti après le 9e but, là, c'est comme, on savait réellement qu'il était pour se passer quelque chose à ce banc-là. Je me rappelle le caméraman que je lui ai dit, reste sur Patrick, tu le lâches pas, tu le suis. À ce moment-là, il aurait mis la rondelle au jeu, puis je pense que je serais même pas allé pour la mise au jeu. Je serais resté sur ces images-là.
Parce que là, le coup d'œil qu'il a joué à Rouen en passant, questionne chacune.
Il est arrivé là, puis là, il est passé en avant de Ronald Coré, ensuite Mario. Puis là, il y a eu un regard, là, Mario, puis un regard peut-être arrogant un peu. Mais Patrick, il s'est retourné, puis là, il est allé voir Ronald Coré, puis là, il a dit, c'est mon dernier match avec le Canadien. Puis il se retourne, puis là, il dit, t'as compris?
Oh! Ouf, j'en ai encore les frissons, se remet dans le bain. C'est samedi 2 décembre, la soirée du hockey sur Radio-Canada. Et là, le Canadien se fait poivrer. Quand on entend les applaudissements dérisoires, c'est que c'est 7-1 à ce moment-là. Patrick Roy fait un arrêt d'un lancer au-delà de la ligne bleue et lève les bras au ciel pour
répondre à la foule qui se moquait de lui.
Et là, Mario Tremblay laisse dans le but. Puis à 9-1, c'est Patrick Roy qui dit « J'en ai assez, je pars par moi-même. » Et là, à l'époque, pas de baie vitrée derrière le banc. Le président de l'équipe toujours assis en arrière, Ronald Coré. Et c'est là que Patrick Roy se penche et lui dit « C'était mon dernier match ici. » Après avoir échangé un regard tueur avec Mario Tremblay, l'entraîneur de l'époque.
Ben, déjà, depuis quelque temps, il y avait comme une espèce de rivalité entre Roy et Tremblay. Tremblay venait d'arriver derrière. Fait, parce que tout ça, ça remonte au congédiement de Serge Chavard, le directeur général, et Jacques Demers, quelques semaines auparavant.
En début d'année, 0-4 que le Canadien commence la saison. T'sais, si on refait le portrait, Coupe Stanley en 93 contre en battant les Nordiques en première ronde. Ça a fait mal. Lockout en 94.
Les Nordiques menaient 2-0 cette saison.
Oui, je le sais. Lockout en 94-95. Et là, le Canadien ne fait pas les séries dans cette courte saison. Les Nordiques terminent au premier rang, mais sont éliminés par les Rangers. Nordiques déménagent au Colorado. Et là, on débute la saison 0 victoire, 80 en 95. Donc, Ronald Coré dit « Dehors Serge Chavard, dehors Jacques Demers qui l'a ramené à Coupe Stanley en 93. » Mais ils rentrent deux gars qui n'ont pas d'expérience. Réjean Houle comme DG et Mario Tremblay comme coach.
Je me rappellerai toujours de Réjean Tremblay qui avait dit à une radio à Montréal, « Le bleu, OK, mais pinotte. En voulant dire, qu'est-ce que Réjaoul? Parce que Réjaoul, c'était comme l'espèce de gars des affaires communautaires du Canadien de Montréal. Il n'avait pas un rôle hockey.
Non.
Et là, il se retrouve directeur-gérant de la plus prestigieuse équipe de la Ligue nationale de hockey. On se demandait s'il avait la capacité à répondre. Et dès l'arrivée de Tremblay, et ça avait choqué non seulement le public, mais ça avait choqué les joueurs, parce qu'on ne leur donnait pas beaucoup de crédibilité, autant à Hull qu'à Tremblay. Puis bon, Patrick Roy, c'est un coq. Mario Tremblay, c'est un coq. Fait que les deux coqs se retrouvaient dans la basse-cour. Puis Tremblay avait un but. Il voulait... Parce que Patrick Roy était omniprésent dans le vestiaire. Tu sais, on le disait souvent, l'entraîneur adjoint de Jacques Demers à l'époque, c'était pas les autres, là. C'était pas Jacques Laperrière, c'était Patrick Roy. Patrick Roy qui décidait, tu devrais faire jouer un tel avec un tel, puis un tel avec un tel. Déjà, il y avait un minding coach en lui. Et Tremblay le savait très bien, puis il voulait le casser. Puis il y avait une chicane entre les deux. Puis là, c'est arrivé le 2 décembre, là, ça a explosé.
Ah, carrément explosé. Quand ça explose, Stéphane, tu te dis quoi? Moi, je me dis, hey, Patrick Roy, c'est l'image du Canadien de Montréal. C'est comme un peu quand Tom Brady est parti des Patriots. Je peux te faire un comparatif, Pascal. Est-ce qu'ils vont recoller les morceaux? Ça n'a pas d'allure. Toi, tu disais, c'est fini à cause du tempérament bouillant de Patrick?
Ça se peut pas. Tu peux pas te départir de l'image du Canadien de Montréal, du gars qui a permis à l'équipe de gagner une autre Coupe Stanley en 93. Tu vas avoir réconciliation à quelque part. Mais c'était clair dans la tête du Canadien. Il fallait l'échanger. Parce que avant Réjean Houle, Serge Chavard avait amorcé quelques pourparlers avec des équipes pour échanger Patrick Roy. Il n'est pas allé jusqu'à l'échanger, mais il était rendu peut-être à la croisée des chemins. Il se disait peut-être que ce serait la meilleure chose qu'on pourrait faire, aller chercher du bon jeune matériel pour échanger Patrick Roy. Mais Patrick Roy m'a déjà dit, 10 ans après la transaction, j'avais fait un reportage, j'ai dit, moi, je voulais rester à Montréal. Il y a un homme qui aurait pu régler tout ça, c'est Ronald Decoré, qui aurait pu comme coller les pièces du casse-tête pour comme réconcilier tout le monde, mais jamais il s'est immiscé dans le travail de Réjean Houle. Il a laissé Réjean Houle faire son travail, puis il s'est fait avoir dans cette transaction-là de façon abominable.
L'enfer. Selon toi, est-ce que Ronald Cora pourra coller les morceaux justement parce qu'il s'était dit « Hey, j'ai tellement fait un choix critiqué de Mario Tremblay que Réjean Houle, faut que j'aille avec eux jusqu'à la fin? »
Je pense que c'est ça. C'est encore très frais, les nominations des deux hommes. Puis il disait « Faut que je leur laisse carte blanche. C'est à eux à opérer l'équipe, autant sur la glace qu'en gestion. » Puis c'est pour ça que c'est pas mêlé de l'histoire. Mais s'il avait parlé, s'il avait peut-être eu une rencontre, puis je sais que c'était Robert Sauvé, l'agent de Patrick Roy à l'époque, était prêt à rencontrer la direction, dire est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente là, pour continuer la saison? Parce que ça allait pas si mal que ça avec Mario Tremblay. En termes de victoire, je pense qu'il avait remporté 10 de ses 12 premiers matchs avec le Canadien, mais là, ils étaient sur une mauvaise séquence. Puis c'est là que ça a explosé entre Roy et Tremblay.
S'ensuit la transaction, Pascal. Patrick Roy, le meilleur gardien de but de l'histoire, qui en a encore dedans parce qu'il va nous le prouver au Colorado, est échangé avec le capitaine du Canadien, Mike Keane, en retour de deux attaquants quand même suspects qu'on avait connus à Québec, exactement. Martin Rosinski et André Kovalenko, tous deux gars de deuxième, troisième trio. Et le jeune Jocelyn Thibault, repêché, tu devais être là, repêché au Colisée quand tout le monde scandait le Thibault, moi aussi j'étais dans les estrades. On a mis de la pression, pas à peu près, sur le kit de 19 ans.
Pauvre Jocelyn.
Ben, c'est ça.
C'est un gars tellement candide puis gentil, Jocelyn Thibault. Oh, il se retrouvait dans Fosse aux Lions. C'est ça, c'est une soie, Jocelyn Thibault. C'est sûr qu'il n'a jamais répondu aux appels à Montréal. Puis peu de temps après, il a été échangé aux Blackhawks de Chicago. Ça a été une transaction... La pire transaction, non seulement de l'histoire du Canadien, mais peut-être de la Ligue nationale de hockey.
Tellement.
Tu donnes Patrick Roy, Mike Keane, qui n'a pas été mauvais pour l'Avalanche du Colorado, contre deux suspects, comme tu dis. Où Rosinski avait un talent.
Oui.
C'était un buteur, mais il jouait quand ça y tentait.
C'est ça.
Kovalenko, lui, c'était le suspect, puis Thibault, trop jeune, trop vert pour comme assumer la pression à Montréal. Puis non seulement le Canadien s'est fait avoir, ça, je ne me rappelle pas, c'est Jean Martineau qui m'avait raconté l'histoire. Pierre Lacroix a demandé, peux-tu nous envoyer Roy puis Keane le plus rapidement possible à Denver? Fait que là, Réjean Hall a dit « Oui, il n'y a pas de problème, puis on va prendre le même appareil, puis on va ramener Kovalenko, Rosensky, puis tu vas à Montréal. » Puis c'est le Canadien qui avait payé la facture. Fait que le Canadien a perdu la transaction, puis la transaction dans le transport.
Hey, pour vous montrer, André Kovalenko n'aura joué qu'une saison à Montréal. C'est la saison 95-96. Donc, au moment où il est arrivé, il a fait 34 points, 51 matchs. Et par la suite, il a été échangé aux Oilers d'Edmonton. Sa meilleure saison en carrière, c'est 59 points. Non, c'est pas vrai, 68 son année recrue avec les Nordiques. C'est vrai, il nous avait impressionnés. Sinon, c'est 59 points. Et Martin Rosinski, lui, a duré plus longtemps à Montréal. Il a passé 8 saisons complètes, mais sa meilleure saison a été de 55 points. Donc, c'était vraiment pas des joueurs d'impact.
Tout à fait. Puis, petite anecdote, lorsque le Canadien décide d'échanger Patrick Roy, Patrick demeurait, sauf erreur, c'était à Blainville ou Rosemère. En tout cas, peu importe. Sa mère était agente immobilière, Barbara Miller. Puis lorsqu'elle a fait l'annonce sur la vente de la maison de Patrick, c'était marqué une vente urgente pour un déménagement inattendu à Denver. C'est comme ça qu'on annonçait la vente de la maison.
J'adore ça. Et là, Patrick Roy s'en vient avec nos anciens Nordiques parce que le déménagement est frais. C'est Pierre Lacroix, son ancien agent de joueur, justement, qui va le chercher à titre de directeur gérant de l'Avalanche du Colorado. Et s'ensuit pour l'Avalanche une série de succès parce que Patrick, en 1995, il y en avait encore dedans. Et d'ailleurs, il n'y en avait pas juste dedans dans le filet, il y en avait dedans dans ses commentaires aussi. Je te fais écouter son fameux commentaire par rapport à Jeremy Roenick en séries éliminatoires 1995.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear. Then it's hard for me to understand what he says.
Patrick a amené cette confiance-là au Joe Sakic, au Peter Forsberg, au Mike Ritchie qui était présent à ce moment-là.
C'est tout ce qui manquait. C'était un gardien solide, un gardien de premier plan. Puis ils l'ont obtenu en Patrick Roy. Puis évidemment, Pierre Lacroix, lorsqu'il a vu la chicane à Montréal, s'est empressé d'appeler Réjean Hall et dire est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse une transaction? Puis ça a pris à peine 4 jours. Puis ça n'a pas été une longue négociation. Alors, tu voyais que l'expérience de Lacroix avait eu le dessus sur l'inexpérience de Réjean Hall. Puis oui, il a apporté cette aura-là à l'Avalanche du Colorado, la pièce manquante là, pour aller chercher les grands honneurs. Coupe Stanley en 96 et une autre un peu plus tard, au début des années 2000.
Exactement, celle au début des années 2000, Pascal, c'était avec Raymond Bourque, le meilleur défenseur des Bruins de Boston qui avait été échangé à l'Avalanche du Colorado et dans le but de gagner une Coupe Stanley. Et l'Avalanche perdait 3-2 dans la série finale de la Coupe Stanley. Patrick Roy disait à Raymond Bourque, fais-toi-en pas, on s'en va chercher la Coupe Stanley, je te le promets. L'Avalanche a gagné les matchs 6 et 7. Patrick Roy a donné un but en 2 matchs. Okay. C'est phénoménal de le voir garder les fils en série, Patrick Roy. Il était bon en saison, mais en série, c'est simplement incroyable. 3 trophées qu'on est smite.
Martin Brodeur a battu à peu près tous les records là, en saison régulière de Patrick Roy pour le nombre de victoires, blanchissage, nombre de parties jouées, blablabla. Mais en série, là, sauf erreur, c'est 152 victoires pour Patrick Roy. Puis celui qui vient deuxième, c'est justement Martin Brodeur, a peut-être 60 victoires derrière. Ce sont des statistiques, des chiffres qui en disent beaucoup. Quand venait le temps de performer, Patrick Roy était présent.
Mm-hmm. Pour terminer cet entretien avec toi, Stéphane Turcot, sur cette transaction majeure il y a 30 ans de Patrick Roy qui passe au Colorado. Si Patrick était resté à Montréal, on parlerait-tu encore du Canada qui est à la recherche de sa première Coupe Stanley depuis 1993?
Peut-être pas, parce que Roy disait souvent, puis des entrevues après la transaction, on dit on était à quelques joueurs près de performer puis de répéter ce qu'on avait fait en 93. Je pense que le Canadien, parce que écoute, ça a été un désastre au Canada. Depuis 93, là, ça va peut-être un petit peu mieux.
Ouais, oui.
Mais depuis 93, là, c'est pas l'ombre de la dynastie que la population du Québec a connue. Et les malheurs ont commencé avec le départ de Patrick Roy.
Ah oui, bien juste, Pascal, pour bien te démontrer le succès de Patrick Roy, 86, c'est la Coupe Stanley. 89, le Canadien perd en finale de la Coupe Stanley. 93, il remporte la Coupe Stanley. 95, il est échangé. Et entre 1995 et 2009, 14 ans, le Canadien a gagné 4 rondes en série.
C'est fou. Puis combien de fois ont raté les séries? Pratiquement la moitié du temps.
Exactement. Donc, vraiment, c'est un retour sur cette transaction qui a fait basculer à tout jamais la concession du Canadien de Montréal. Et puis là, maintenant, mais Patrick, après deux beaux succès avec les Remparts de Québec, deux Coupes Memorial, se retrouve entraîneur des Islanders de New York. Qu'est-ce que t'as appris le plus dans tes années que t'as couvert les Remparts avec Patrick Roy comme coach? Qu'est-ce que t'as appris le plus sur lui?
C'est un gars qui était... Il y a eu le Patrick Roy avant l'avalanche du Colorado,
mm-hmm.
où il n'y avait pas de filtre, puis il disait ce qu'il pensait. Puis écoute, les conférences de presse, les scrums du matin à l'entraînement, c'était du nanan. Là, c'était... Tu sais, on arrivait là des fois, puis on n'avait pas d'histoire. Patrick lançait une phrase, ça y est, on est parti pour la journée. Montréal t'appelle, hey, tu peux-tu faire une converse avec moi à telle heure, tout ça.
Oh, ouais.
Après, tu as eu Patrick Roy un peu plus, je te dirais, réservé à son retour mm-hmm. là, en 2018. Mais c'est un homme qui était très généreux en entrevue.
Ouais.
Vraiment généreux en entrevue. Et j'ai jamais vu et connu quelqu'un qui aimait autant le hockey que lui.
Mm.
Je me rappelle à son arrivée en 2003, après sa retraite, Québec recevait le tournoi de la Coupe Memorial. C'est Éric Lavigne qui était l'entraîneur. Patrick embarquait sur la patinoire pour donner conseil, mais Patrick, c'est lui qui dirigeait l'entraînement.
C'était pas Éric,
c'était Patrick qui dirigeait l'entraînement.
Monsieur, et d'ailleurs, je pense à un de tes reportages que j'avais écouté à la télé, qu'on voyait très bien. Patrick, à un moment donné, c'est Patrick qui parle aux joueurs, puis Éric Lavigne est en arrière.
C'est ça.
La tête baissée, je me disais que c'est beau, ça m'est coaché, lui-là.
À la fin de ce premier entraînement-là, il avait dit aux joueurs, retournez dans le vestiaire, tu sais, les petits gars vont à l'école, puis il avait fait le petit dodo d'après-midi, puis ci, puis ça. À quatre pattes, Patrick Roy était dans le fond de la patinoire puis ramassait les rondelles, mettait ça dans la chaudière. Là, j'étais là, j'ai dit, OK, quatre Coupes Stanley, trois Conn Smythe, meilleur gardien de l'histoire. Pas d'affaire à faire ça, là.
Non, c'est ça.
En même temps, ça démontre...
C'est toute la passion.
La rigueur derrière l'homme. Parce que souvent, on le dépeint comme étant un sanguin, un ci, un ça, mais...
Il l'est, puis il reconnaît... Tu sais, il a fait des choses juniors qu'il ne referait pas aujourd'hui. Là, il apprend, mais tu sais, récemment encore avec les Islanders...
Mais il est impliqué.
C'est ça.
Ça amène
c'est
le
un
côté
impulsif,
sanguin.
C'est un passionné dans l'âme.
Vraiment un passionné dans l'âme. Tu parlais de récemment, là, justement, avec les Islanders. Je regarde, me semble que je l'avais
contre
pas loin. Là.
Le match est à la télévision. Lui, il a, comme on dit en métier, il n'est pas micé. Il n'y a pas de micro-cravate sur son veston. Mais juste avec les micros qui sont un peu partout dans l'amphithéâtre, et de la façon dont crie Patrick à Alain Astradine de l'autre côté, on l'entend clairement ce qu'il dit. Puis on l'entend parler en français, c'était de toute beauté. Puis c'est ça.
Ah non, c'est ça. Il est tout simplement exceptionnel. Merci Stéphane Turcotte pour ce passage dans l'histoire sportive. On se reparle bientôt. Merci beaucoup d'être passé. Pascal, on va faire une courte pause. Par la suite, tu veux nous parler de guerre en Europe parce que on se le cachera pas. Avec la Russie, l'Ukraine, ce fameux plan de paix qui en sera peut-être pas un positif pour l'Ukraine. Il y a des craintes là en Europe que au niveau des combats armés, ça se répercute sur d'autres territoires.
Ça fait des années qu'on le voit venir, veut pas, depuis 2022 avec l'invasion de la Russie en Ukraine. Il y a quelque chose qui se divise, puis ça se divise aussi au niveau économique depuis avant la pandémie.
Mm-hmm.
On voit une Chine, une Russie qui veut avoir un pouvoir économique, mais un pouvoir territorial aussi, puis certainement dans les valeurs. On a un combat de valeurs occidentales en ce moment, puis de valeurs peut-être plus autoritaires, de gouvernements qui sont différents de nous. Qui réussira à avoir la palme? Ça, on peut pas vraiment le savoir, puis comment est-ce que le monde va se dessiner? On peut appréhender sans être certain. Mais chose assurée en ce moment, il y a une division et on voit les États-Unis se ranger beaucoup plus derrière une Russie parce que peut-être au niveau économique, c'est plus alléchant. Mais à quel moment on s'est dit les États-Unis vont choisir l'économie au-delà des valeurs? Ben, à un moment où dans le monde actuellement, ça se divise et qu'il y a des gros joueurs qui s'étaient tus pendant plusieurs années aux dépens de valeurs occidentales qui prennent de plus en plus de force. Puis en ce moment, tu as l'OTAN d'un bord, le Canada qui est de leur côté avec les autres pays européens, qui se sont rangés derrière l'Ukraine, vu que c'est une invasion violente de la Russie sur le territoire ukrainien. Puis c'est pas quelque chose que dans nos valeurs occidentales, on respecte. Il y a des choses qui grouillent et dont on ne parle pas assez ici. Puis c'est ça, on va faire un tour après la courte pause.
On parle de tout ça et moi, je te ferai découvrir en terminant l'émission, pour terminer sur une note positive, la fabuleuse histoire des Hoosiers d'Indiana au football universitaire américain. Premier championnat depuis 1947 qu'ils ont acquis samedi dernier. Alors, on parle de ces deux histoires après cette courte pause à Boulevard 101, l'émission d'Anjaz.